Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale au Capi Service en direct du chapiteau de Pullman Hotel à Kinshasa. Émission spéciale sur la mobilité d'études à l'étranger. Quelles sont les formalités et démarches pour étudier en France? On en parle dans ce magazine à l'occasion de la clôture de la semaine française de Kinshasa. Merci aux intervenants de tout à l'heure, merci aux participants et merci à tous nos auditeurs à travers la République et à vous qui nous écoutez sur www.radiocapi.net. Sylvain Baouguer est à la mise en onde, Marcel Ngombo coordonne et réalise ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Au micro, c'est Jody Daniel Kieschema. Merci à Campus France et à l'Institut français de Kinshasa pour la collaboration. Bienvenue à tous, merci d'applaudir très 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 fort. Au Capi Service, en direct de Pullman Hotel à Kinshasa. Bienvenue à cette émission de la vie au quotidien. Voici le thème du jour. Quelles sont les formalités et démarches pour étudier en France? Certains jeunes rêvent de débuter ou de poursuivre leurs études supérieures au sein d'un établissement français. Parfois, les démarches peuvent s'avérer assez longues et complexes. Ce qui dérange certains jeunes. Comment procéder pour obtenir une inscription à partir de la RDC? Comment obtenir le visa d'études et quelles sont les formalités à l'arrivée et après les études? Peut-on revenir au pays et trouver facilement un emploi? Nous allons trouver des réponses à toutes ces questions avec nos invités. Nous avons sur ce podium, ce plateau, Madame Odette Fouta, experte en ressources humaines. Madame Odette, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Professeur Kodjo Ndoukouma, vous êtes expert en numérique et docteur de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Bonjour et bienvenue dans cette émission.
Bonjour, merci.
Madame Yvette Ikolo, directrice de l'École supérieure de management de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans cette émission au Capi Service. Alors, la première question est de savoir quelles sont les formalités et démarches à entreprendre pour étudier en France. Monsieur Kodjo.
Bon, déjà, il faut avoir une inscription. À l'époque où nous avions tenté en 96, les inscriptions se prenaient via le Centre culturel français, mais maintenant tout se fait en ligne. Ça veut dire qu'il faut d'abord obtenir une inscription dans une université française ou un institut supérieur ou une école supérieure. Ensuite, faire une demande de visa et vous allez avoir attache avec les services culturels et dans les demandes, dans les conditions d'obtention de visa, on vous demande une subsistance, on vous demande un logement, une preuve de logement, et on regarde le caractère sérieux des études. Et quand le visa vous est donné, c'est un visa long séjour, un visa D, et dès que vous arrivez sur place, l'ambassade vous donne un cachet pour vous présenter à l'OFI, l'Office d'immigration et d'intégration, qui vous fait le certificat médical, et c'est important de garder pendant toute la durée du séjour votre inscription.
Et là, parlez-nous par exemple de votre cas. Est-ce que c'était facile pour vous, toutes ces démarches?
Bon, comme je le disais, en 1996, je sors. C'était difficile d'obtenir un visa. Nous nous sommes résolus de pouvoir faire les études ici. Et c'est 15 ans après, donc en 2011, que nous obtenons très facilement un visa d'études pour aller faire le doctorat. Et donc, les conditions, lorsqu'elles sont bien remplies, qu'il y a une inscription dans une université montrant le caractère sérieux, que vous remplissez les conditions, je crois c'est 630 € à justifier chaque mois durant toute la durée du séjour, et que vous avez un logement soit en campus universitaire, soit dans une famille d'accueil, en tout cas l'ambassade favorise le départ, et vous avez comme ça 70% d'étudiants qui vont voyager pour commencer leurs études en première année.
Dites-nous, Madame Odette, on peut aller étudier en France, au Canada ou dans un autre pays. Alors, quand on revient en RDC, c'est facile de trouver un emploi, de trouver un travail, de s'intégrer professionnellement?
Oui et non. Oui et non, parce que tout simplement, je pense que quand vous venez comme ça, on vous regarde un peu de haut. Alors, tout à l'heure, il y a un des intervenants qui a parlé d'une certaine dose d'humilité à avoir. Mmh. Je soutiens, je soutiens. Il faut avoir une certaine dose d'humilité, parce que tu viens pas montrer que toi tu as tout, toi tu as les meilleurs diplômes, et puis voilà, je vaux mieux que tout le monde, parce que moi je viens de l'extérieur. C'est une question d'attitude à avoir. Mm-hmm. Et ensuite, c'est les démarches que tu entreprends. C'est pas facile, surtout quand tu n'as pas d'expérience. Lorsque tu viens droit de l'école comme ça, malgré que tu as un super beau diplôme, quand tu n'as pas d'expérience, c'est assez difficile. Et c'est en ce sens où l'école de Madame Yvette fait toute la différence, en permettant aux étudiants d'avoir des stages en alternance. Et donc, ils finissent en fait avec une expérience, même si c'est 6 mois hein, ou je ne sais combien de mois. Et ça fait toute la différence. Quand vous sortez de l'école, même si vous avez un super diplôme, mais sans expérience, c'est une problématique.
Voilà. Madame Yvette Ikolo, après les études à l'étranger, on revient au pays, est-ce que on s'intègre facilement, professionnellement parlant?
Écoutez, côté professionnel et le côté personnel aussi, parce que lorsqu'on rentre, on doit se réhabituer au contexte. Même quand on est congolais, on est parti pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Lorsque l'on revient, y a des choses qui ont changé et des choses qui n'ont pas changé. Les difficultés de la vie, c'est-à-dire toute simple, l'eau, le courant, les transports en commun, et ça c'est la base, hein. Donc ouais. Ça veut dire que quand le diplômé revient, il est même dans une hésitation. Est-ce que je reviens? Lorsqu'il revient, il est face à ça. Ça, c'est la réalité. Est-ce que je vais pouvoir revivre de nouveau dans les mêmes circonstances? Parce que j'étais maintenant, pendant quelques années, oui, habitué à autre chose. Donc, c'est se réhabituer au contexte dans lequel on revient. Ensuite, bien évidemment, lorsqu'on a un diplôme français, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être plus facile, dans un sens, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, le CV doit pouvoir se retrouver sur la table d'un recruteur. Peu importe comment il y est arrivé, mais il faut qu'il y arrive. Et ça, que le diplôme soit français ou congolais, oui, c'est pareil. Donc, du coup, maintenant, on joue de ses contacts. Il y a plusieurs façons de faire les choses. On joue de ses contacts, de son réseau. Peut-être que là, effectivement, le CV arrivera assez rapidement. Et quand on n'a pas de contact, eh bien, c'est la même chose que pour tout le monde. On contacte les agences de recrutement.
Des recrutements, ouais.
On essaye d'être visible, aller à des manifestations.
On va s'inscrire à l'ONEM, à l'Office national de l'emploi.
Par exemple.
Qui va délivrer des cartes des chômeurs.
Par exemple. Donc, ça veut dire que la démarche, elle est la même et elle est pas facile.
D'accord.
Il faut être persévérant.
Il faut être persévérant.
Voilà.
Quelles sont les formalités et démarches à entreprendre pour aller étudier en France et ailleurs? Et quand on revient au pays, quelles sont les opportunités d'emploi qui s'offrent à vous? Alors, des questions? Marcel est quelque part dans la salle et Jean-Marc, des questions?
Oui, je dis là des questions. Dans la salle, je me déplace pour aller vers ceux qui veulent bien poser des questions.
D'accord.
Voilà, vous allez vous présenter et puis vous poser votre question.
Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Richard Amouzou. Moi, je vais plutôt poser la question dans un autre sens. Pourquoi forcément aller ailleurs alors qu'aujourd'hui, on trouve ces grandes institutions qui sont sur Internet où tu peux forcément
faire des formations en ligne.
Faire des formations en ligne. C'est ce que je fais et ça m'a plutôt bien réussi jusqu'à maintenant. Merci.
Ok. Une autre question?
Oui, je m'appelle Émile Mayamba de l'Université de Kinshasa. Je voulais vérifier par rapport comment postuler pour avoir la bourse. On nous parle aujourd'hui de l'expérience avant de postuler. Nous qui venons de terminer l'année passée, jusqu'à ce jour, nous avons beaucoup de difficultés pour avoir de l'expérience. Nous avons déposé les dossiers dans plusieurs entreprises ici à Kinshasa. On nous refuse même de faire les stages professionnels. Maintenant, je me pose la question, où allons-nous avoir cette expérience qu'on nous exige avant de postuler?
Au début, vous avez parlé de la bourse. Vous êtes à la recherche de bourse pour aller étudier à l'étranger.
Oui, oui, on me demande d'expérience au moins de 2 ans pour postuler. Maintenant, là, je n'ai même pas l'expérience là. Mais j'ai fait 5 ans à l'université. Ça, ce n'est pas une expérience ou comment? C'est ce que je me demande.
D'accord. Une autre question.
Bonjour, moi Bonjour. C'est Cassien Abba, directeur pays de l'entreprise Studeli. J'ai une question au niveau de la procédure.
pour aller étudier en France, il faut justifier de ses ressources financières. Ici, en RDC, c'est un cas particulier parce que, vu le contexte, je me pose bien la question de savoir comment l'ambassade sera sûre-t-elle de la fiabilité et de la sécurité de ses fonds que l'étudiant lui présente pour justifier ses ressources financières.
La fiabilité et la sécurité de ses fonds, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je veux par là dire quoi? Par exemple, si je prends aujourd'hui le cas du Cameroun, avant, il fallait pouvoir donner un relevé bancaire. Mais par la suite, avec du faux qu'on faisait dans les banques, une fois l'étudiant arrivé en France, il est difficile pour lui de poursuivre normalement ses études, vu que les fonds n'ont pas véritablement été
sécurisés. Il avait un faux relevé bancaire, alors que dans son compte, il y avait
alors,
presque
la,
rien.
La solution était quoi?
D'accord.
La solution, c'était de produire des AVI.
D'accord.
Donc, de bloquer des fonds dans un compte, dans une banque. Alors, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui en RDC. Alors, je me pose bien la question de savoir quelles sont les mesures qui sont prises.
D'accord, merci.
Pour s'assurer de cette fiabilité.
Bien, il y a une autre question de l'autre côté. Il y a une dame qui veut poser la question. Nous parlons des formalités et démarches à entreprendre pour aller étudier en France et dans d'autres pays. Et quelles sont les opportunités d'emploi qui s'offrent lorsqu'on rentre? On revient, oui, madame.
Juste une question d'information.
Oui.
Je suis responsable d'un établissement supérieur d'enseignement technique arts et métiers. Nous organisons les filières telles que la coupe et couture et le modélisme.
Parlez un peu plus fort.
J'ai dit, hein, je suis responsable d'un établissement d'enseignement supérieur en arts et métiers. Nous organisons deux filières. Jusque-là, il y a le modélisme et la coupe et couture. Mais nous avons des problèmes avec nos finalistes qui aimeraient bien approfondir leurs connaissances techniques ailleurs. Malheureusement, nous n'avons pas assez d'ouverture. J'ai saisi cette opportunité pour poser la question. Si on peut me dérouler un peu les instituts supérieurs ou les universités qui évoluent dans le même domaine que nous pour que je puisse maintenant exploiter cette opportunité par rapport à mes étudiantes.
Merci pour la parole. C'est Nsosé Meunis, candidate pour un master en France. J'ai une question par rapport à la prise en charge qu'on doit fournir à l'ambassade au niveau des relevés bancaires. Il ne faut pas oublier qu'on est au Congo et le contexte congolais montre que par moment, ce n'est pas les parents biologiques qui prennent l'étudiant ou l'enfant en charge pour ses études. Par moment, c'est l'oncle, c'est la tante, et la prise en charge fournie, par exemple, par cet oncle-là ou par cette tante-là, sera-t-elle acceptée ou pas? Parce que peut-être que les parents ne peuvent pas, mais c'est l'oncle qui prend cet enfant-là en charge. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait? Ça sera bon ou pas? Parce qu'il y a aussi ce contexte-là qu'il faut tenir en compte.
D'accord. Merci pour toutes ces questions. On va donner la parole au professeur Kodjo.
Bon, nous avons recensé différentes préoccupations. Moi, je ne retiendrai que la préoccupation sur les frais de subsistance et la préoccupation sur l'enseignement en ligne. Je parlerai de ça de l'expérience d'anciens étudiants.
D'accord.
En fait, lorsque vous bidouillez, excusez-moi le terme, vos subsistances, ça vous rattrape sur place. Parce que quand vous arrivez en France, quelque chose de basique, vous devez manger au moins 3 fois par jour pour tenir. Nous avions des conférences qui allaient jusqu'à 22 heures parce qu'il n'y a pas de problème d'électricité. Il y a des conférences que nous avons tenues à 21 heures. Alors que vous devez être dans l'amphi à partir de 8 heures. Donc, un repas, quand vous êtes, c'est entre 5 € et 9 euros si vous devez manger dans un McDo ou dans un Burger King. Et vous devez manger ainsi tous les jours. Vous avez votre pass Navigo pour qui vous donne l'accès, votre abonnement qui vous donne l'accès. C'est 51 € le mois pour pouvoir l'avoir. Oui, c'était plus haut. Maintenant, avec l'unification des 5 zones, c'est 51 €. Et puis, vous avez plusieurs centres d'enseignement. En fait, vous avez par exemple la Sorbonne qui est à Tolbiac, qui est au quartier latin, qui est vers Marie Curie là-bas et tout le reste. Ça veut dire qu'en une journée, vous devez suivre les différents cours dans différents sites différents. Donc si vous n'avez pas déjà de l'argent pour manger, c'est clair que vous n'allez pas soutenir l'effort des études. En plus de cela, on vous demande des travaux où vous devez faire des impressions. Une impression dans les dactycopies des étudiants, c'est souvent 25 centimes et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que les moyens de subsistance qui sont demandés couvrent bel et bien des besoins réels. Et ce qui se passe, c'est que si vous bidouillez vos subsistances, vous êtes en décrochage scolaire. Ce qui fait que l'année suivante, comme vous n'avez pas validé vos études et que vous n'avez pas des moyens, sur place, on ne vous renouvelle pas votre titre de séjour. Et comme vous ne savez pas rentrer avec la honte de l'échec, vous avez comme ça beaucoup de gens qui sont partis pour les études et qui font tout à fait autre chose. L'enseignement en ligne, en très peu de mots, vous avez la possibilité de faire la mobilité ou les universités également. Il y a plusieurs universités de Limoges, de Paris, de tout le reste, qui font d'autres systèmes d'enseignement en ligne pour justement vous éviter les problèmes de visa et les coûts, mais c'est la structure diplômante qui est la même si vous suivez les cours en mode présentiel ou en mode ou en ligne. Et pour notre master, nous avions économisé, on a fait en ligne au campus numérique, et pour le doctorat, on a fait en présentiel. Ce sont des combinaisons qu'on peut faire. Merci.
Merci, professeur Kodjo Ndoukouma. Madame,
oui, alors
Odette Fouta, vous avez quelque chose à dire?
Oui, je vais répondre au jeune homme qui a fini ses études et qui cherche du travail et qui n'arrive pas à trouver du travail parce qu'on lui demande l'expérience et il n'en a pas. Alors, moi, je vais lui répondre en lui donnant la petite histoire de quelqu'un qui m'a fait, qui m'a fait des demandes, je dirais, intempestives pendant que j'étais DRH à la Standard Bank. Ce jeune homme avait su trouver mon adresse email professionnelle et il m'envoyait son CV une fois par semaine pendant...
Le même document.
Le même document, une fois par semaine, pendant 6 mois.
Un titre de rappel.
Mais c'était incroyable. Au bout d'un moment, je me suis dit, je regardais ce truc rentrer, je le dilitais, Mais au bout d'un moment donné, je me suis dit, mais c'est qui ce jeune homme? Ça m'a interpellée, j'ai dit, c'est qui ce jeune homme? J'ai imprimé le CV, j'ai demandé à mon équipe, appelez ce gars, parce qu'il ne va pas arrêter de m'écrire, appelez-le. Et on l'a appelé, il est passé en entretien pour un stage, c'était un monsieur qui avait un MBA, s'il vous plaît. On avait juste un stage, un truc temporaire de 3 mois d'assistant, il a accepté, avec toute humilité, et après, il s'est fait embaucher pour un CDD, parce qu'il était très bon. Et ensuite, il s'est même fait débaucher aujourd'hui par la City.
Voilà, donc ça c'est une nouvelle expérience. Madame Yvette Ecolo.
Ah, ben, c'est une question qui est difficile parce qu'effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. On demande un minimum d'expérience.
Et, 5 ans, souvent c'est 5 ans d'expérience.
Pas forcément, non, 2 ans, 1 an. 1 an et demi, 2 ans, c'est bon lorsqu'on voit des jeunes arriver. C'est généralement pour des postes d'entrée.
Et souvent, la grande question que les jeunes se posent, mais où est-ce que j'aurai ces 5 ans? Je viens à peine de finir l'université.
Mais c'est une question qui est très difficile, pour laquelle il est difficile de répondre, parce que malheureusement, c'est comme ça. Et parfois, bon, ben, on peut accepter, comme le disait Madame Fouta, de commencer par un stage. Parce qu'un stage vous permet ou vous donne la possibilité, peut-être, d'être confirmé par la suite. Donc ça veut dire qu'effectivement, lorsque l'on rentre, on fait preuve d'humilité, on ne se dit pas, voilà, j'ai mon diplôme français, donc on va me prendre, partout où je vais aller, ça va fonctionner. C'est de se dire, oui, je peux commencer par un stage.
Oui.
Ça vous permet non seulement de rester actif, de continuer à apprendre, de rentrer dans une dynamique. Ça vous permet de d'être visible en interne. C'est-à-dire que de montrer que vous êtes capable de...
Il y a aussi une question de la maîtrise de la langue. Voilà, il envoie son CV, il arrive à l'interview, mais il a du mal à s'exprimer en français. Est-ce que ça peut être l'un des critères qui peut éliminer beaucoup de gens?
L'entreprise, c'est pas une œuvre caritative. Donc c'est aussi simple que ça. Parfois, vous allez me trouver très direct, mais dans la vie, il faut parfois savoir l'être. Comme ça, la personne sait exactement où elle se trouve. C'est dur. Mais c'est ça la vie. Et donc ça veut dire que une entreprise, elle doit fonctionner, elle a des objectifs à atteindre en termes de revenus, de rentabilité, de chiffre d'affaires, etc. Donc on doit avoir les meilleures personnes.
Voilà.
Quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer en français, ben, il a peu de chances de pouvoir être recruté, tout simplement.
Bien, au Capi Service, nous sommes en direct de Pullman Hotel à Kinshasa, à l'occasion de la semaine française. Quelles sont les formalités et démarches pour aller étudier en France et quand on revient au pays, quelles sont les chances de trouver un travail au pays? Alors, y a-t-il d'autres questions? Il y avait une question de la dame par rapport au stage et par rapport aux filières, voilà, les filières d'études.
Ah, bah écoutez, moi je pense que c'est quelqu'un qui est plus familier avec... parce que de toute façon, madame, pour avoir des filières, je pense qu'en allant sur Internet, il y a possibilité de trouver dans les différents pays les écoles, les établissements qui vous permettraient de pouvoir connaître les filières où vos étudiants pourraient continuer, que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis ou n'importe où. Donc, rien qu'avec l'Internet, on a beaucoup d'informations. Ou alors, c'est de se présenter dans les ambassades, ici à Campus France, voir dans quelle mesure on peut vous aider à avoir accès à certains établissements qui proposent ces filières.
Et c'est quoi Campus France?
Alors là, c'est une question que je vais de passer, là, Madame Tiran.
Voilà, on va donner la parole à Madame Tiran, qui est là, qui va nous parler de Campus France.
Merci. Christine. Donc, oui, Christine Tiran-Matignon, je suis en charge des études en France et je travaille à l'ambassade de France. Et c'est nous qui organisons donc cet événement Café Campus. Et justement, merci Jody, parce que cet événement, nous l'organisons justement pour que nous puissions nous faire connaître et que les Congolais qui désirent aller faire des études en France sachent qu'ils peuvent se rendre à l'Institut français, à l'espace Campus France, où ils trouveront un service d'accueil, d'information et d'accompagnement pour les accompagner dans leur démarche s'ils sont candidats aux études en France. Alors, si je puis...
Alors, Christine, est-ce que vous recevez souvent des étudiants qui viennent pour s'informer et qui ont envie d'aller étudier en France?
Jody, nous sommes au mois de juin, nous avons commencé notre campagne le 25 novembre, nous sommes à 12 000 visiteurs. Alors, on n'est certes pas très connus, mais quand même.
Ok, et quelles sont les démarches à entreprendre pour celui qui veut aller étudier en France? Il semble que parfois c'est très compliqué.
Alors, je pense que c'est pas plus compliqué pour la France que pour ce que je vais rebondir justement sur ce que disait Kodjo tout à l'heure, c'est que la démarche elle est très simple. D'abord je réfléchis à quel métier je veux faire et pour ce métier quelles études je dois faire et dans ce cas-là est-ce que je veux faire mes études ici ou à l'étranger, dans l'occurrence est-ce que je veux faire mes études en France? Et si je veux faire mes études en France, je me rends à l'espace Campus France. Et là, dans un premier temps, il y a toute une information, un accompagnement pour aider le candidat à construire son projet d'études. Son projet d'études, c'est quel métier, quelle filière, quelle université, quelle ville. Et donc je vois là, très bien, il y a des étudiants dans l'assemblée, je vois qu'ils récitent presque par cœur. Cécile, ça veut dire qu'on a fait du bon travail. Et donc, en fait, une fois que ce projet est bien mûr, l'étudiant va sur la plateforme, parce que c'est une plateforme dématérialisée, c'est une procédure dématérialisée. Il constitue son dossier. Une fois qu'il a constitué son dossier et qu'il est validé, il passe ce qu'on appelle un entretien pédagogique. Cet entretien, il est là pour que le candidat puisse, face à un conseiller, donner des informations supplémentaires qu'il a peut-être pas mis sur la plateforme, préciser son projet, le développer, voir si effectivement par rapport à sa formation initiale il a fait le bon choix. Et une fois que cette procédure est terminée, c'est-à-dire ici, le dossier est transmis directement en ligne aux établissements d'enseignement supérieur en France. Oui. Qui ont seuls la décision pour décider en fonction du dossier du candidat, d'accorder ou non une inscription.
Alors pour ceux qui sont qui nous écoutent à Kisangani, à Lubumbashi, à Goma, ainsi que dans d'autres provinces du pays ou dans certains coins où l'accès à l'Internet est difficile, comment procéder à ce moment-là?
Alors comment faire? Ben, vous avez cité Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kisangani. Nous avons des implantations, nous avons des annexes Campus France, des antennes Campus France dans ces pays-là, dans ces villes-là, excusez-moi. Et en fait, vous vous rendez à l'espace Campus France et là, vous avez un accès gratuit à Internet pour pouvoir constituer votre dossier.
Bien, merci Christine pour toutes ces précisions. Est-ce qu'on peut applaudir très 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 fort au Capi Service en direct de Pullman, Hôtel à Kinshasa. Alors, il y avait une question par rapport sur les filières. Une dame a posé des questions. Voilà, elle est de l'Institut technique des arts et métiers pour faciliter à leurs étudiants d'accroître leur expérience. Y a-t-il...
À l'Espace Campus France, nous mettons à disposition des outils d'information. Nous ne donnons pas l'information. Nous amenons les étudiants à aller chercher l'information. On ne peut pas faire du cas par cas. C'est à vos étudiants d'aller sur un site onicep.fr. On considère que les étudiants congolais vont sur WhatsApp, Facebook, etc. Il est peut-être temps aussi, quand on fait un projet d'études, d'aller chercher l'information. Donc voilà, si vos étudiants veulent passer, on les accueillera avec plaisir.
Merci. D'autres questions dans la salle?
Oui, Jody.
Oui, Marcel.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour, quel est votre nom et puis...
Je m'appelle Monsieur Leiba. Ma question est dirigée directement à Madame Cécile, la responsable des Campus France. Quelles sont les stratégies que l'ambassade de France prévoit à travers son organe pédagogique qui est Campus France pour augmenter l'attention des étudiants congolais sur la rentrée décalée de janvier? Et deuxième sous-question, est-ce qu'est-il possible les inscriptions de la rentrée de janvier ou février soit validée? Si oui, et pourquoi ça traîne? Ça fait au moins plus de 2 mois.
D'accord, merci. Une autre préoccupation dans la salle?
Bonjour à tout le monde, c'est Capitaine André, étudiant. J'aimerais savoir, par rapport au système congolais, éducatif congolais, est-ce qu'il y a de filières, je veux dire facultés ou options, qui ne sont pas facilement accessibles aux étudiants congolais.
Bien, une autre préoccupation?
Bonjour, je suis William, je suis candidat pour l'inscription à Mulhouse. Ma question s'adresse directement au professeur. Je vais prendre un cas particulier, son cas. Professeur, vous arrivez après avoir fréquenté une université congolaise, donc un système congolais. Dites-moi de manière particulière, comment est-ce que vous vous êtes adapté? Quelles sont les techniques que vous avez faites? Parce que c'est aussi important pour nous autres. Si jamais on partait, on veut savoir, on veut déjà avoir une certaine expérience, même si là-bas, on devrait encore faire notre propre expérience.
D'accord, merci. Marcel, il y a encore d'autres questions? Non, on va revenir plus tard. Professeur Kodjo, vous avez la parole.
Bon, je réponds à la dernière question, laissant également aux autres dans leur spécialité la possibilité de répondre plus en profondeur. En fait, l'adaptation. D'abord, nous avons été dans un système belge, disons-le ainsi, le système d'enseignement, jusqu'au niveau du diplôme d'État. Alors, si vous allez en France, vous trouvez d'abord une grande différence à l'université, c'est que vous êtes détaché de la bouche du professeur. C'est-à-dire le professeur entre, il vous donne une introduction magistrale et il vous laisse aller dans la bibliothèque. Alors que ici au Congo, vous avez les professeurs qui vous font leur synthèse de cours qu'on appelle maladroitement syllabus et j'aime pas le terme.
Quel est le terme approprié?
Bon, c'est les notes polycopiées de cours, parce que les D'accord. syllabus, c'est un condensé des petites erreurs et des coquilles dans un travail qui est fait. Donc vous avez déjà cette grande différence, parce que quand vous arrivez, vous êtes dépaysé, le professeur il parle, et puis il vous dit, allez lire au moins 5 autres ouvrages. Et vous allez dans une bibliothèque où vous vous perdez. Alors, maintenant après, il y a surtout les fiches de lecture qu'il faut faire. Il y a une certaine façon de faire des fiches et ensuite il y a une façon de rendre le travail dans le format, comme je le disais, thèse, antithèse, synthèse ou dans des formats précis. Or, tout ça, les élèves qui ont été au collège et au lycée qui y étaient habitués, ils passent cela vraiment haut la main. Maintenant, c'est ça déjà la première chose. Maintenant, la deuxième chose, quand vous devez revenir dans le pays, là je reviens maintenant comme professeur, vous vous rendez compte que vous avez été formaté à la française, mais que vous devez venir former les gens dans le contexte qui est
congolais.
Le contexte congolais. Et donc, vous faites vous-même une auto-adaptation de tout ce que vous êtes. Et quelque part, si cela n'est pas bien fait, les étudiants vous trouvent compliqué. Donc, c'est cela. Mais encore, faut-il dire que l'essentiel, c'est de savoir très bien lire, de savoir très bien écrire. Et ensuite, l'adaptation, ça fait aussi partie de l'intelligence. Et puis, ensuite, il faut maîtriser la méthode. Les connaissances sont les mêmes. Si on est dans le milieu français, voici la méthode avec les mêmes connaissances. Et si on est dans le milieu belge, voici l'autre méthode avec les mêmes connaissances. Je vous remercie.
Il y a une autre question par rapport aux filières d'études inaccessibles. Ça existe ?
Oui, nous discutions pour déjà comprendre la question, parce que je suis en face également de deux enseignantes. La question, c'est que toutes les filières sont ouvertes. Et même moi, quand j'étais en attache avec le service culturel, à l'époque, l'ambassade, parce qu'il n'y avait pas encore le campus comme tel, ils encourageaient d'ailleurs les étudiants à aller faire des filières innovantes. Nous avons fait un doctorat en droit de l'économie numérique. On a écrit là-dessus. Bon, toutes les filières, elles sont bonnes. Mais après, je vais rebondir sur ce que Christine a dit. Vous faites cela en fonction de votre projet. Si vous avez fait des études sur la physique quantique ou la physique nucléaire, bon, à part le CRENK ici, le Centre de Recherche Nucléaire de Kinshasa, qui vous embauche ? Personne. Donc vous faites en fait votre projet en fonction du capital singulier et du débouché professionnel que vous aurez après autant de sacrifices. Mais sinon, à l'étranger, vous pouvez même faire du droit spatial ou du droit intersidéral, si vous voulez.
Bien, merci, professeur. Madame Odette Fouta, est-ce qu'il y a un commentaire par rapport à toutes ces préoccupations-là ?
Bon, il y a certains pays, par contre, si je dois répondre à la question par rapport aux études accessibles ou pas, dans le cas du Canada, effectivement, il y a certaines filières qui sont pas accessibles à tous. Et je pense qu'ils appellent ça des programmes contingentés. C'est un petit peu pour protéger, je crois, le métier. Je sais que, par exemple, vous pouvez pas faire avocat comme vous voulez au Canada, particulièrement au Québec. Et à l'époque, on ne pouvait pas non plus faire médecine. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils font venir des médecins d'Afrique ou d'ailleurs, déjà formés. Ils leur font passer des examens et un certain nombre d'années en médecine interne. Et ensuite, ils les remettent maintenant dans le métier comme médecin canadien. Mais effectivement, il y a des pays qui ont des programmes contingentés.
Voilà, il y avait une autre question sur la prise en charge des études par une parenté autre que les parents biologiques. Christine ?
Oui, ben la réponse, madame ou mademoiselle, excusez-moi, elle est oui, bien sûr. Ce qu'expliquait tout à l'heure très justement Kodjo, et merci pour ce vécu et cette précision, c'est-à-dire que il y a un coût paramétrique qui est à peu près de, je crois, 630 ou 650 euros par mois. Et l'étudiant, quand il va déposer son dossier au consulat, il a fait déjà toute la partie pédagogique. Et quand il arrive au consulat, son dossier, il est étudié selon trois critères. Le premier, c'est effectivement, est-ce que le candidat peut prouver qu'il finance sa mobilité ? Mais il, ça veut dire lui, sa famille, ses proches, ce n'est pas nécessairement le père, comme vous disiez. Il faut juste qu'il y ait l'assurance que cet étudiant, quand il va arriver en France, il ne va pas, en plus de l'adaptation, adaptation à un système universitaire, comme l'ont bien expliqué les panélistes, différent, adaptation à toute la dimension interculturelle d'un pays étranger, d'un pays européen, d'un pays qui est loin de votre pays, si en plus vous devez chercher comment vous allez vous nourrir et vous loger, c'est pour ça il faut aussi attester que dans les trois premiers mois vous avez un logement. Ça peut se faire par le CROUS avec des logements universitaires. Vous pouvez être hébergé par des amis, par une famille. Encore faut-il le prouver. C'est-à-dire que quand le consulat reçoit une attestation d'hébergement avec un studio de 30 mètres carrés et une famille de 3 enfants, il est évident que ça, c'est pas un logement. Comment un étudiant peut suivre des études dans de bonnes conditions si dans ces conditions-là. Donc, voyez, c'est ces critères de logement, critères d'allocation de vie. Et effectivement, bon, bien sûr que les papiers soient ne soient pas de faux papiers, ça c'est clair, ça, on n'en parle même pas. Oui. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, vous ne représentez pas un danger pour le territoire français. Voilà.
Alors Christine, qu'en est-il des opportunités des bourses? Il y a une question oui, là tout à l'heure par
merci,
rapport
voilà.
aux bourses études.
Alors, les opportunités de bourse, vous avez, pour ce qui concerne les études en France, vous avez ce qu'on appelle les bourses du gouvernement français. Nous avons lancé là un appel à candidature que vous avez sur le site de l'ambassade de France, mais qui, bien sûr, pour l'année 2019, pour la rentrée 2019, clos. Nous sommes en train de faire les sélections des dossiers. Les dossiers que nous allons sélectionner, nous allons les auditionner, les recevoir en entretien. Et nous sélectionnerons un contingent de boursiers du gouvernement français qui partira en septembre 2019. Cependant, vous imaginez bien que, comme dans tous les pays, ces budgets ne sont pas extensibles. Et donc, si vous allez sur le site de l'ambassade, nous vous mettons aussi des liens sur toutes les autres possibilités de bourses. On a parlé des bourses de l'Agence universitaire de la francophonie tout à l'heure. On peut parler des bourses de l'Université Senghor. On peut parler des bourses des fondations. Les fondations font des bourses, octroient des bourses, excusez-moi. Nous allons, nous, dans notre stratégie, faire comme Kinshasa Digital le disait tout à l'heure. Nous allons démarcher, nous allons rencontrer les entreprises qui sont dans des domaines où l'employabilité est vraiment forte. Et nous allons essayer de développer des bourses d'excellence. Alors, pour répondre, oui, il y a des bourses, mais il n'y a pas que les bourses du gouvernement français. Nous vous invitons à aller donc sur le site de l'ambassade et surtout le site de campusfrance.org où vous avez une mise à jour permanente. Récemment, nous avons la Fondation L'Oréal a fait appel à nous et nous avons transmis 20 candidatures. Donc voilà, oui, il y a des bourses. Elles sont bien évidemment attribuées sur critères d'excellence.
D'accord. Sous vos applaudissements au Capi Service, émission spéciale en direct du chapiteau des Pullman Hotel à Kinshasa. Émission spéciale sur la mobilité d'études à l'étranger, quelles sont les formalités et démarches pour aller étudier en France? Et quand on revient au pays, quelles sont les opportunités d'emploi qui s'offrent aux étudiants, à ceux qui ont terminé les études en France? Marcel, de l'autre côté, il y a encore d'autres questions?
Moi, je dis, il va encore intervenir, voilà, vous avez le micro.
Oui, merci, c'est encore Émile Mayamba.
Oh, Émile Mayamba, vous avez déjà posé une question?
Oui, oui, non, c'est monsieur... une deuxième question.
Allez-y quand même.
Oui, je voulais vérifier par rapport à la langue. Lorsque nous postulons aux universités, surtout françaises, on nous exige en deuxième position de connaître l'anglais. Mais la RDC est un pays francophone. Comment on nous exige encore la langue française pendant que nous sommes en train d'étudier en français et la France connaît que dans D'accord. nos universités, on enseigne en français.
D'accord, merci pour la préoccupation.
Oui, je voulais aussi réagir par rapport à la réponse qu'on m'avait donnée à la directrice de la BRAC Congo. Oui, la BRAC Congo, jusqu'à ce jour, je suis passé à plusieurs fois pour déposer une lettre seulement de stage professionnel. Mais jusqu'à ce jour, on nous dit que on n'autorise même pas les gens d'avoir accès à déposer la lettre de stage. C'est dit à quoi? Je demande ça.
Merci pour la préoccupation. D'autres questions dans la salle?
Apparemment, il n'y a pas de nouvelles questions. Je remets à Lauriane. Le même auditeur, je dis, va encore poser des questions.
Pas toujours les mêmes, hein. Pas toujours les mêmes. Il y a plusieurs.
En attendant qu'il y ait d'autres, mais je dis, on lui accorde la parole.
D'accord. Il y a d'autres questions ici. Est-ce qu'il existe un système éducatif congolais proprement dit? À quoi ressemble le CV ou la lettre de motivation parfait? Longueur, contenu? Bien. On aura des réponses tout à l'heure. Madame Odette Fouta, vous avez la parole, une question qui vous est adressée directement.
Alors, pour le fait qu'il soit venu déposer sa demande de stage et qu'elle n'a pas été prise, ben, je l'encouragerais à être plus innovant. Alors, tu n'as pas besoin de te déplacer et de venir déposer ta lettre. Tu peux simplement envoyer ton CV sur le site de recrutement qui est connu. Tu peux regarder sur LinkedIn,
monsieur,
tu peux regarder sur Facebook.
CV, elle rappelle chaque semaine.
En fait, je pense qu'il faut être innovant. Le CV papier, ça ne marche plus. Donc, il faut être innovant pour que tu puisses intégrer la boîte. C'est ce que je peux te donner comme conseil.
Bien, une autre question sur la langue, l'anglais. Madame Yvette, on dit qu'aujourd'hui, pour aller faire des études en France ou ailleurs, il faut connaître l'anglais absolument.
Mais écoutez, de toute façon, tout à l'heure, Bref, excusez-moi, je pense que tout à l'heure, on a abordé la question. On est à l'ère de la mondialisation. Donc, d'une manière ou d'une autre, on peut ne pas vouloir, mais il faut quand même pouvoir s'intégrer dans un monde. On ne vit pas tout seul, on sait qu'il y a des conditions. Maintenant, si on veut pouvoir accéder à cela, il faut tout simplement répondre aux critères de manière favorable. C'est ainsi. Donc, de toute façon, quand vous allez faire des études dans les pays francophones, etc., si vous allez en Allemagne, ce sera la même chose. Vous aurez certainement, dans votre cursus, la nécessité de devoir... vous aurez des cours d'anglais. Je veux dire, c'est difficile de faire autrement. C'est, à moins que ce ne soit lui qui crée le monde. Mais le monde, il est là, il est créé, on doit évoluer dans le monde dans lequel on est. On ne peut pas se mettre en abstraction parce qu'on ne veut pas ou parce qu'on ne trouve pas ça intelligent. Mais c'est ainsi. Donc, si on veut, on fait. Alors, à partir de ce moment-là, dès l'instant où il y a des exigences de langue, et si on n'a pas ces compétences-là, ben on voit dans quelle mesure on peut les acquérir de manière à pouvoir accéder à son rêve, à ses envies, à ses besoins.
Professeur Kodjo.
Effectivement, vous remarquez le président Macron, il parle indifféremment bien le français et l'anglais. Et la fois dernière, il traduisait même aux commémorations de débarquement de Normandie pour le président Trump qui n'avait pas encore eu son traducteur. Donc c'est pour dire que ça dépend des filières. Si vous voulez faire commerce international et vous voulez vous inscrire à l'école de commerce de Paris, on va vous dire quand même que vous irez souvent en stage d'immersion à Londres ou en stage d'immersion aux États-Unis. Et donc ça dépend justement de l'objet de votre demande. Mais quand vous voulez faire médecine, comme mon collègue alumni qui est là, ou quand vous voulez faire droit, on vous exige davantage le français. Nous étions avec le président Macky Sall, qui était venu dans une université pour parler. Il dit « Senghor a aimé apprendre le français lorsqu'il a entendu le mot confiture ». Et lorsque vous êtes en France et que vous faites vos travaux, qui doivent être déposés dans la bibliothèque de l'université comme une thèse de doctorat ou un mémoire, l'université vous donne un lecteur qui a fait les lettres pour revoir avec vous votre syntaxe et votre phraséologie, parce que le travail que vous laissez doit être en bon français parce qu'il va avoir le couvert de l'université. Donc c'est pour dire que la question nous semble, en tout cas ici sur le plateau insolite, si vous avez voulu faire autre chose, commerce international, oui. Mais sinon, c'est l'exigence de la langue française qui est celle que l'ambassade demande.
Voilà, il y a une autre question. Quels sont les obstacles liés à l'intégration des étudiants en France, professeur Kodjo?
Bon, il faut d'abord dire, je salue l'effort que un ami étudiant, bon, moi je ne le suis plus, fait en Île-de-France. Vous avez les Ouest-Africains qui ont des associations qui ont déjà pris plusieurs générations et qui facilite l'intégration, l'arrivée des nouveaux étudiants. Prenez, vous avez un jeune de 18 ans qui n'est jamais sorti du Congo et qui débarque à Montpellier, à Limoges ou à Paris. Mais il est totalement perdu. Les universités, pour chaque rentrée, organisent des kiosques où ils vous donnent un kit d'accès. Ils vous donnent le guide de l'étudiant, ils vous donnent la facilité d'avoir une caisse de couverture maladie, d'avoir également un plan pour savoir comment vous faites. Mais cette expérience ne suffit pas toujours parce que vous avez comme ça des étudiants français qui ont grandi dans le système et qui se connaissent. Or, quand vous êtes étudiant seul, certains travaux à faire, vous supportez toute la charge par rapport aux autres. Donc, il n'est pas facile d'être étudiant étranger en France. La deuxième chose, c'est les formalités administratives. Ça veut dire que votre année n'est pas encore finie, que vous devez déjà commencer à penser renouveler votre titre de séjour. Et souvent, lorsque vous n'avez pas pu valider vos notes en juillet, c'est en septembre que la préfecture s'organise pour accueillir le plus de de demande de titre de renouvellement de titre de séjour. Et si vous, vous devez maintenant faire la session de septembre, il est fort probable que pendant un temps, vous n'ayez pas de titre de séjour. Et si vous n'avez pas de titre de séjour, tout le reste de l'administration, donc vos droits aux soins de santé, vos droits même au logement, ce qui se passe, c'est que ça empathie. Voilà, c'est ça les difficultés d'adaptation.
D'accord, nous parlons au Capi Service en direct de Pullman Hotel. Nous parlons de la mobilité d'études à l'étranger. Quelles sont les démarches et formalités à entreprendre pour aller étudier en France? Et quand on revient au pays, quelles sont les opportunités d'emploi qui s'offrent à vous? Oui, madame, il y a d'autres questions dans la salle de l'autre côté, Marcel. Donnez-nous votre nom et
merci.
Posez vos questions.
Moi, c'est madame Annie. Je voudrais poser la question au professeur. Le professeur a découragé pratiquement les jeunes gens à aller étudier en France.
Et comment ça?
Il conseille de commencer ici et d'aller faire les doctorats, master et tout. Et sur le plateau, nous avons entendu tout le monde défiler et dire que déplorer le fait que notre enseignement, notre système éducatif est autorabé. Et le professeur a encouragé les gens à aller poursuivre les études en France parce que, je ne sais pas si c'est Madame Odette, parce que les diplômes qu'on peut obtenir de là inspirent confiance. Alors, pour ceux des jeunes gens qui viennent d'avoir juste leur bac, qui voudraient partir étudier en France, vous ne pensez pas, professeur, qu'il serait mieux d'organiser une stratégie d'encadrement pour ces jeunes-là, de manière à ce que lorsqu'ils partent pour aller améliorer leurs connaissances et revenir avec un diplôme internationalement acceptable, de les encadrer de sorte qu'en allant, qu'ils puissent revenir travailler au pays pour le développement du pays, au lieu de les décourager et attendre seulement à la fin. Alors que nous savons que même à l'université de Kinshasa,
oui.
Lorsqu'on a des gens qui finissent à l'université de Kinshasa, c'est tout un problème sérieux dans l'expression, dans l'écrit et surtout, presque surtout pour tous les points. C'est un problème.
D'accord.
Alors comment vous conseillez à ceux qui ont les ambitions d'aller étudier en France de commencer d'abord ici alors que le système est catastrophique?
D'accord. Merci madame. Une autre préoccupation, Marcel? Y a-t-il d'autres préoccupations dans la salle?
Je ne vois pas de main levée.
Voilà, Christine.
Oui, je vais répondre. Donc, ce qu'expliquait le docteur Coggio, c'est pas qu'il est interdit d'aller faire des études en France en début de cycle, en L1, comme on dit, licence première année. C'est juste que c'est plus compliqué. Pour vous dire que c'est pas impossible, nous avons actuellement 3000 dossiers qui sont partis dans les établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire qui ont été renseignés jusqu'au bout de la démarche et nous sommes en attente des réponses et nous avons déjà des réponses. Sur ces dossiers, 65% sont des dossiers pour l'année 1. Donc c'est pas impossible du tout. À la seconde remarque que vous faisiez en disant comment les aider, comment les encadrer. C'est, alors, comme on expliquait tout à l'heure avec la responsable Espace Campus France Cécile, il n'est pas possible d'être derrière chaque candidat. Cependant, comme je l'expliquais tout à l'heure, la stratégie d'attractivité de la France, Bienvenue en France, lancée par le gouvernement français, l'État français en novembre 2018, c'est un des piliers, c'est l'accueil. L'accueil en France, mais aussi l'accueil au départ, la préparation au départ. Et c'est ce que nous sommes en train de déployer dans nos espaces Campus France. Alors, nous sommes en train, parce que comme l'on disait tout à l'heure, on est dans notre deuxième campagne, nous développons des produits pour accompagner ces étudiants pour la maîtrise de la langue, mais aussi pour ce qu'on appelle le français académique. C'est quoi faire un résumé, c'est quoi prendre des notes, et la dimension interculturelle. Et il y a Jody qui me reprend le micro.
Merci Christine. Est-ce qu'on peut applaudir très 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 fort? On est arrivé presque à la fin de cette émission au Capi Service. Émission spéciale sur la mobilité d'études à l'étranger. Quelles sont les démarches à faire pour étudier à l'étranger? Professeur Coggio, alors on va conclure avec vous et puis les autres intervenants. vont également dire le mot de la fin en quelques secondes.
Oui, en très peu de mots, c'est une riche expérience d'être en France parce que la France, c'est une grande culture. La France également, c'est l'ouverture à l'universel. Et quand vous avez un niveau de formation universitaire en France, vous êtes ouvert à plusieurs expériences et nous l'encourageons pour les autres. Merci.
Merci, professeur Kodjo. Madame Odette Fouta.
Alors moi, je voudrais juste encourager les gens, les étudiants qui partent. Le conseil que moi je leur donne, c'est de faire tout ce qu'ils peuvent pour s'intégrer. Parce que souvent, on arrive là-bas et on reste un peu comme on était chez nous au Congo ou ailleurs. Je pense que ce n'est pas la meilleure façon, ce n'est pas la meilleure stratégie. Moi, j'encourage les étudiants qui arrivent là-bas à faire beaucoup d'efforts pour s'intégrer. Ça demande vraiment une ouverture d'esprit. Et c'est comme ça que vous allez passer vos années des études. D'accord. De façon épanouie.
Madame Yvette Écolo.
Moi, je dirais ceci. Donc, que l'on fasse ses études ici au Congo ou en France, c'est de réfléchir aux filières, à la filière que l'on va choisir, de manière à étudier un métier qui est porteur d'emploi, de sorte à ce que lorsqu'ils reviendront, ils n'auront pas trop de difficultés à se réintégrer et à trouver un emploi.
Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à l'émission Okapi spécial, Okapi service, émission spéciale sur la mobilité d'études à l'étranger. Quelles sont les formalités et démarches à entreprendre pour étudier en France et quelles sont les opportunités d'emploi au pays? Merci de nous avoir suivis partout. Vous êtes en République démocratique du Congo et merci à vous qui nous avez suivis sur www.radiookapi.net. Sylvain Baougouer était à la mise en onde. Marcel Ngombo a assuré la réalisation de ces programmes sous la supervision de Jean-Marc Matouaki au micro. C'est Jody Daniel Keshama. Merci à Campus France et à l'Institut français de Kinshasa pour la collaboration et à l'ambassade de France. Et merci à vous, chers participants, sous vos applaudissements. Merci d'être venus et à la prochaine.